Je suis sûr que, comme moi, vous avez remarqué que dans la vie, il est souvent plus facile de se mettre dans les difficultés que d'en sortir. Ça prend un rien de temps de se mettre dans un problème, mais il nous faut parfois beaucoup de temps pour en sortir. J'aimerais vous donner une illustration de ça ce matin. C'est une histoire vraie. Elle m'a été racontée par Kai Arasolak lorsqu'il était professeur de théologie en Angleterre. C'est l'histoire de deux jeunes en Finlande qui ont trouvé un très bon système pour payer leurs études. Ils réparent des voitures et les revendent plus cher. Seulement, ils font ça de la façon suivante. Ils achètent deux voitures identiques, une qui est abîmée à l'avant, l'autre qui est abîmée à l'arrière. Ils achètent les deux, et avec les deux, ils en font une, et ils la revendent avec bénéfice, évidemment. Donc, nos deux jeunes sont constamment en train de chercher des voitures qu'ils peuvent retaper, reconstruire, refaire. Et un jour, en cherchant justement des vieilles voitures, ils sont tombés sur une Citroën DS. Les plus anciens parmi nous se souviennent de ce que c'est qu'une Citroën DS. Cette voiture française de luxe, c'était même la voiture des présidents de la République pendant un certain temps. Vous savez, ces voitures qui ont une suspension extraordinaire. Puis finalement, ils les avaient fait avec les phares qui tournent en même temps que les roues pour éclairer dans les virages. Quelque chose d'incroyable. Elle était déjà vieille, cette voiture. Et elle n'était pas accidentée. La mécanique était en bon état. Le problème, c'était la carrosserie. La carrosserie était épouvantable. Il y avait des bosses de partout. La peinture était oxydée. Elle s'écaillait à plusieurs endroits. On ne savait plus quelle couleur c'était parce que la rouille avait fait toutes sortes de couleurs sur cette voiture. Les plastiques étaient cuits au soleil. Les pare-chocs en chrome étaient piqués, abîmés, les verres étaient tout rayés. C'était épouvantable. L'allure de cette voiture était catastrophique. Ce qui fait qu'ils ont pu la voir pour un prix très bas. La mécanique était bonne, donc ils se sont dit on va travailler sur la carrosserie, on va en faire une beauté, et puis après on va la revendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont refait la peinture, ils ont résolu les problèmes de carrosserie de partout. Ils ont peint ça de toute beauté. Ils ont refait les chromes, ils ont remis des plastiques neufs. Ils ont été dans tous les petits détails pour que cette voiture soit superbe. Elle était méconnaissable. Elle était fantastiquement belle. Alors ils l'ont mis en vente. Peu de temps après, deux messieurs étaient intéressés. Ils sont venus pour essayer la voiture. Ces deux messieurs, en fait, c'était deux frères qui étaient assez corpulents. Très corpulents. Deux grands frères costauds. Alors ils sont venus, ils se sont installés dans la voiture, nos deux mécaniciens se sont installés derrière, et les deux messieurs volumineux se sont installés devant. Et ils sont partis faire un tour dans la DS. Fantastique, superbe. C'est doux comme tout, la suspension est soft, c'est impeccable. Ils étaient impressionnés. En plus de ça, elle était comme neuve, elle avait une allure fantastique. Ils ont fait un tour, ils étaient épatés, ils sont revenus à la maison et puis ils ont voulu sortir de la voiture. Aucune des portières ne s'ouvre. Derrière, devant, ils poussent. Les deux jeunes derrière étaient embarrassés. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Alors ils donnent des coups d'épaule dans les portières pour essayer de sortir. Ni les portes de devant, ni les portes de derrière ne s'ouvrent. Les deux jeunes commencent à se regarder. Qu'est-ce qui se passe? Pas moyen de sortir. Alors, on ouvre les fenêtres, on passe la main dehors pour essayer d'ouvrir par dehors. Rien à faire. Aucune des portes ne s'ouvre. Alors, après avoir tout essayé, ils se rendent compte qu'il n'y a qu'une seule solution. Sortir par les fenêtres. Le problème, c'est que dans la DS, les fenêtres à l'arrière sont petites et la vitre ne descend qu'à moitié. À cause de la sécurité pour les enfants. Il n'y a donc que les fenêtres de devant qui peuvent descendre jusqu'en bas. Ce sont donc nos deux messieurs corpulents qui doivent sortir par les fenêtres. Alors ils comprennent que c'est la seule solution. Alors ces deux messieurs-là commencent à essayer de sortir la tête la première par la fenêtre, chacun de son côté. Contorsion, et je me tourne et je me plie. Et en même temps, je lâche tous les jurons qui me viennent à l'esprit parce qu'ils ne trouvent pas la plaisanterie à leur goût. et ils se tournent et finalement ils arrivent la tête en bas, les pieds en l'air, à sortir de la voiture. Très mécontents. Les deux jeunes là derrière retiennent leur sourire parce qu'ils sont très embarrassés, mais enfin, la situation est quand même spéciale. Une fois que ces deux messieurs sont dehors, un des deux jeunes derrière se demande si les portes vont s'ouvrir. Il essaye et les deux portes de derrière s'ouvrent tout à fait normalement et permettent à nos deux jeunes mécaniciens de sortir élégamment de la voiture. Les deux messieurs qui étaient venus essayer ont regardé ça d'un air très suspicieux. Ils n'ont pas aimé la plaisanterie et, vous avez deviné, ils n'ont pas acheté la voiture. Mais nos deux jeunes se sont dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors ils ont étudié la question, ils ont regardé et ils se sont rendus compte que ils avaient travaillé sur la carrosserie, la mécanique, ils avaient fait le minimum parce que ce n'était pas grand-chose à faire, mais ils n'avaient pas eu la curiosité d'aller voir sous la voiture. Sous la voiture, la rouille régnait. Ce qui fait que lorsqu'on chargeait la voiture de une ou deux personnes, ça allait. Mais quand la voiture était vraiment chargée, elle pliait. Et les portes étaient irrémédiablement fermées. Quand on relâchait la voiture de son fardeau, les portes s'ouvraient très normalement. Je vous le disais en commençant, souvent dans la vie, il est plus facile de se mettre dans les difficultés que d'en sortir. Et je pense à une situation semblable dans les Écritures. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, il nous est raconté cette première visite de Jésus à Jérusalem avec ses parents lorsqu'il a 12 ans. Vous vous souvenez, nous n'allons pas relire le texte, vous connaissez cette histoire. C'est un moment important parce que Jésus, pour la première fois, va aller au temple. Et Jésus, qui vient pour cette première fois au temple, est accompagné de ses parents. On voyage généralement en groupe parce que c'est une réjouissance d'aller à Jérusalem. Et puis, ça nous permet aussi de se défendre si on a été attaqué en chemin. C'est une question de sécurité. Jésus est émerveillé de voir Jérusalem, de voir le temple, de voir ce qui se passe. Et ils vont participer aux fêtes qui ont lieu à ce moment-là, la fête de Pâques en particulier. Lorsque les fêtes sont terminées, il est question de rentrer à la maison. Et on va rentrer à la maison comme on est venu en groupe avec tout le monde, les femmes, les enfants, tout le monde. Joseph et Marie vont faire la même chose, vont réorganiser le voyage pour rentrer à la maison. Et vous savez ce qui s'est passé, on a rassemblé les bagages, on est parti. Et Joseph et Marie ont supposé que Jésus était avec les autres enfants du groupe. De toute façon, Jésus ne fait jamais de bêtises, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et ils vont marcher une journée entière. À la fin de la journée, on veut s'organiser pour camper pour la nuit. Et on commence à chercher Jésus. Pas de Jésus. Vous commencez à voir ce qui peut se passer dans la tête de Marie. Elle cherche son enfant partout. Elle va demander aux gens qui étaient dans le groupe, « Vous avez vu Jésus ?»« Non, il n'était pas avec vous ?»« Non, mais je croyais qu'il était avec tes enfants. »« Mais non, on n'a pas vu de la journée. »« On pensait qu'il était avec toi. » Alors Marie commence à faire le tour des mamans du groupe. Joseph pose des questions. « On n'a pas vu Jésus toute la journée, où est-il ? » Alors il n'y a plus qu'une chose à faire. Retourner à Jérusalem. On est à une journée de marche. Alors ils vont retourner à Jérusalem. Et vous pouvez imaginer ce qui se passe dans l'esprit de Joseph et Marie. Tout d'un coup, ils se souviennent qu'il y a 12 ans, à sa naissance, Hérode avait déjà voulu le supprimer. Mais est-ce que par hasard, il y a encore aujourd'hui des gens qui ont les mêmes plans à l'égard de Jésus ? Est-ce que c'est maintenant qu'ils vont le perdre ? Marie se souvient que l'ange lui avait dit « Une épée te transpercera l'âme. » Est-ce que c'est aujourd'hui ? Vous qui êtes des mamans, vous pouvez imaginer facilement ce qui se passe dans l'esprit d'une mère qui a perdu son enfant et qui doit le chercher pendant 3 jours. Vous pensez que Marie a beaucoup dormi pendant ces jours-là ? Où est Jésus ? Où est Jésus ? Joseph et Marie sont dans Jérusalem, mais trouver Jésus dans Jérusalem, c'est comme trouver une épingle dans une botte de paille. Ils vont demander dans la rue, « Est-ce que vous avez vu un jeune garçon, haut comme ça, habillé de telle et telle manière ?» Non. Ils vont partout dans les rues et demander aux mamans, aux papas, « Vous avez vu un garçon comme ceci, comme cela ?» Non, personne ne l'a vu. 3 jours. Vous imaginez l'angoisse de Joseph et Marie. 3 jours, ils ne trouvent pas Jésus. Finalement, ils vont dans le temple. Et en contraste flagrant entre l'angoisse, l'inquiétude, le stress magistral de Joseph et Marie, vous avez Jésus qui est là. Un garçon de 12 ans, paisiblement assis avec les grands docteurs du temps et qui leur pose des questions et qui discute avec eux sur les Écritures. Vous imaginez à ce moment-là le soulagement énorme dans le cœur de Joseph et de Marie. Alors ils vont vers lui et ils n'arrivent pas à ne pas lui faire de reproches. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 48, il est dit « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous ? Voici, ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Et je comprends, ils l'ont perdu en un jour. Il a fallu 3 jours pour le retrouver. 3 jours d'angoisse que seuls des parents peuvent comprendre. Et Jésus va leur répondre et dire, mais pourquoi me cherchiez-vous ? Sous-entendu, ailleurs, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? C'est un peu comme si Jésus leur disait, mais c'est vous qui avez un problème, c'est vous qui m'avez perdu, c'est pas moi qui suis perdu. Je m'occupe des affaires de mon père, vous n'auriez pas besoin de me chercher partout, où pensiez-vous que je puisse être ? Ailleurs que dans la maison de mon père. Perdu en une journée, 3 jours d'épreuves, d'angoisse, de peur, de crainte, de stress pour retrouver Jésus. Et j'ai l'impression que dans notre vie chrétienne, nous nous retrouvons souvent dans une situation semblable, où nous avons perdu Jésus. Nous avons perdu Jésus et il nous faut longtemps pour le retrouver. Combien de temps s'est-il passé d'ailleurs, depuis que nous l'avons perdu en chemin ? Est-ce que nous savons depuis combien de temps il n'est plus aussi avec nous ? C'est une situation dramatique quand on y pense, pour des chrétiens, d'avoir perdu Jésus. Et je pense à ce texte de l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, où Jésus dit, il y a des gens qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui n'entreront pas dans mon royaume, parce que seuls y rentreront ceux qui font la volonté de mon Père. Et ces gens disent « Mais Seigneur, nous avons fait toutes sortes de choses en ton nom, des miracles, chassé des démons, etc. » Et Jésus leur dit « Mais quand vous faisiez tout ça, je n'étais toujours pas avec vous, je ne vous ai jamais connu. » Ou bien alors à cette situation qui est rapportée par Marc, l'évangéliste, au chapitre 9 de son évangile, où il raconte que Jésus et les disciples retournent à Capernaum. Et les disciples ont une petite discussion à avoir que Jésus ne doit pas entendre, selon eux. Alors ils vont laisser Jésus avancer tout seul en chemin, et eux, ils vont s'occuper de leurs affaires, et ils vont discuter ensemble. Ils ont des choses à débattre, mais on n'a pas besoin que Jésus soit là. Alors on va le laisser poursuivre son chemin tout seul. Arrivé à Capernaum, Jésus leur dit, « Au fait, de quoi vous avez parlé en chemin ?» Le texte nous dit qu'ils gardèrent le silence parce qu'ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand, le meilleur des disciples. Il ne peut nous arriver aussi de vouloir ne pas avoir Jésus avec nous en chemin. Est-ce que c'est encore un peu plus dramatique, ça ? Dans le livre Jésus-Christ, à la page 66, je lis cette phrase. « Si Joseph et Marie étaient restés en étroite communion avec Dieu par la méditation et la prière, ils auraient reconnu le caractère sacré du dépôt qui leur était confié et n'auraient pas perdu de vue Jésus. Un jour pour le perdre, 3 jours pour le retrouver. » Comment pouvons-nous perdre Jésus dans notre vie chrétienne ? Si nous perdons Jésus et que tout d'un coup nous réalisons qu'il n'est plus avec nous, je crois qu'il y a 2 réactions possibles. Soit c'est la panique de réaliser qu'il n'est plus là alors qu'on pensait qu'il y était. ou bien alors c'est la différence, parce que qu'il soit avec nous ou qu'il n'y soit pas, on va de toute façon faire ce qu'on a envie de faire. Mais comment peut-on perdre Jésus? Le texte qu'on a lu il y a un instant nous dit « en négligeant la prière et la méditation ». Le texte continue en disant ceci. Un seul jour de négligence leur ravit le Sauveur. Pour le retrouver, il leur fallut 3 jours de recherche anxieuse. Nous-mêmes faisons semblable expérience. Par nos conversations oiseuses, des médisances, par la négligence de la prière, nous pouvons perdre en un jour la présence du Sauveur. Et bien des jours de recherche douloureuse peuvent s'écouler avant que nous l'ayons retrouvé et que nous soyons rentrés dans la possession de la paix momentanément perdue. Dans nos rapports les uns avec les autres, nous devons veiller à ne pas oublier Jésus, à ne pas poursuivre notre route sans nous rendre compte qu'il n'est pas avec nous. Quand nous nous laissons absorber par les intérêts mondains, au point de ne plus penser à celui en qui se concentrent nos espoirs concernant la vie éternelle, nous nous séparons de Jésus et de ses anges. Trop préoccupés par nos affaires, trop préoccupés par le rendement de nos affaires, trop préoccupés par nous-mêmes. On n'a pas vu que Jésus n'était plus en chemin avec nous. Lui a continué le chemin, le bon, et nous, nous avons pris le nôtre. À cause de quoi? À cause de la négligence dans la méditation, dans la prière. À cause de conversations oiseuses, de médisance, de négligence. C'est aucune question doctrinale, ça vous avez remarqué. C'est une question de mode de vie. C'est une question de vie chrétienne pratique. Ce n'est pas terriblement intellectuel. Ce n'est pas une divergence subtile dans la théologie. C'est de la vie chrétienne pratique, tout simplement. Vous savez, notre vie chrétienne ressemble à une feuille de température, avec des hauts, avec des bas. Si nous avions une ampoule électrique sur la tête, et que cette ampoule électrique s'allume quand nous sommes en contact avec Dieu, et s'éteint quand nous avons perdu le contact avec Dieu, vous savez, nous aurions sur la tête une ampoule clignotante, on and off constamment, une relation intermittente avec Dieu. C'est ainsi que se caractérise souvent notre marche avec Dieu. Mais alors, comment retrouver Jésus? Ou alors, mieux que ça, comment ne pas le perdre? On a déjà cité les grands classiques, la méditation de la parole de Dieu et la prière. Mais permettez, je ne vais pas insister là-dessus aujourd'hui, parce que vous allez trouver que c'est trop classique, trop simple, même si vous ne le faites pas. La méditation de la parole de Dieu et la prière, on peut le faire. Et puis quand on a terminé, on ferme le livre, on s'en va, on va s'occuper de nos affaires et on n'a plus aucune idée de ce qu'on a fait dans ce moment qu'on a consacré à Dieu. Et on ne s'en occupe même plus tout le reste de la journée. Vous savez, imaginez un instant que c'est l'anniversaire de votre femme et vous allez lui offrir des fleurs. Mais vous le faites parce que c'est une obligation, vous devez le faire. C'est un passage obligé, vous devez lui donner des fleurs. Alors elle sera sûrement contente d'avoir des fleurs. Mais ça ne va pas parfumer votre relation avec elle. Ainsi, dans notre méditation et notre prière avec Dieu. Mais j'aimerais aller un peu plus loin avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous proposer 4 stratégies pour retrouver Jésus si vous l'avez perdu et pour ne pas le perdre si vous savez qu'il est encore avec vous. Le premier point, c'est faire ce que Joseph et Marie ont fait. Retourner à Jérusalem. Retourner à Jérusalem. C'est une manière de dire, retournez là où vous savez qu'il était avec vous la dernière fois. Relisez ce livre que vous avez lu et dans lequel le Seigneur vous a parlé. Réécoutez cette prédication pendant laquelle le Seigneur vous a appelé. Retournez à l'église que vous avez peut-être laissée parce qu'il y avait 1000 raisons dans votre esprit de le faire. Mais c'est cependant là que vous avez rencontré le Seigneur. Laissez de côté cette compagnie bruyante, agitée, de gens qui de toute façon ne s'intéresse pas à Jésus. Retournez à Jérusalem. Revenez en arrière, faites demi-tour. Retournez là où vous savez que Jésus était avec vous la dernière fois que vous l'avez rencontré. C'est une autre manière de parler de quelque chose que nous connaissons et qui s'appelle la repentance. Retournez à Jérusalem. Et puis, le point numéro 2 dans cette stratégie pour retrouver Jésus, c'est prendre conscience de notre besoin de la grâce constante de Dieu. Vous savez, nous avons développé avec le temps cette idée que nous avons besoin de la grâce de Dieu quand nous avons besoin de son pardon. Et nous reconnaissons que pour être pardonnés, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais cela nous amène finalement à vivre la grâce de Dieu d'une façon intermittente. Nous allons la chercher quand nous en avons besoin, pour le pardon principalement. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul disait dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Vous n'avez pas l'impression que le péché abonde en vous et vous n'avez pas l'impression que vous avez besoin de cette grâce surabondante de sa part. Le problème essentiel que nous avons n'est pas que nous commettons des péchés. Le problème essentiel, c'est que nous sommes des pécheurs. Mais nous sommes des pécheurs tout le temps. Donc nous avons besoin de la grâce de Dieu, non seulement pour résoudre le problème des péchés, mais parce que nous sommes des pécheurs et nous en avons besoin chaque jour, à chaque heure. Nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser la grâce de Dieu selon nos besoins par intermittence. Nous avons besoin de sa grâce en permanence, à chaque instant de notre vie. Et cette grâce nous est offerte. Elle nous est offerte non pas intermittente, mais permanente. Le problème, c'est que nous n'avons pas toujours le sentiment d'en avoir tellement besoin. Autrement dit, nous ne nous mettons pas au bénéfice de la grâce permanente de Dieu d'une façon constante, seulement quand nous le jugeons nécessaire. Vous savez, notre habitude d'avoir recours à la grâce de Dieu quand nous pensons seulement en avoir besoin, c'est quelque chose qui blesse Dieu et qui garantit notre échec. Cette habitude-là, c'est malheureusement l'habitude qui est décrite dans les Écritures comme étant celle du peuple de Dieu à bien des moments de son existence. Et je vous propose de regarder ce texte avec moi dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 63. Ésaïe chapitre 63. J'aimerais que nous regardions ensemble les versets 7 et suivants. « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit certainement, « Ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. » Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Cette grâce de Dieu était à leur disposition constamment, en permanence. Mais ils n'ont pas jugé en avoir besoin. Et le verset suivant continue, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. » C'est cette idée que finalement la grâce de Dieu, nous n'en avons besoin que quand nous pensons en avoir besoin. Résultat, la révolte contre Dieu. Pourtant, elle est là constamment, cette grâce. Vous, père et mère qui êtes là aujourd'hui, pensez à la relation que vous auriez avec un fils ou une fille qui ne s'intéresse à vous que pour avoir la clé de la voiture et de l'argent de poche. C'est ainsi que nous agissons finalement envers notre Père Céleste à bien des égards. Alors qu'il nous offre sa grâce en permanence, nous la prenons du bout des doigts quand nous pensons vraiment en avoir besoin pour nous en sortir. Regardez ce passage dans le livre des psaumes, psaume 32. Au verset 10, il y a cette phrase « Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Environné de sa grâce. Je crois que c'est un élément important pour nous dans notre vie chrétienne de réaliser que nous avons besoin de la grâce de Dieu à chaque instant. Nous avons besoin de la grâce permanente de Dieu, que nous en avons besoin tout simplement pour vivre. Le point numéro 3, pour ne pas perdre Jésus ou pour le garder, c'est prendre conscience de la présence constante de Dieu. Vous vous souvenez, Jésus avait dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus, nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons rien, nous ne voyons pas ses anges. Et pourtant, le Seigneur voudrait que même sans voir, nous puissions croire. Souvenez-vous, Jésus avait dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Vous vous souvenez de cet événement qui est raconté dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, où le prophète Élisée était recherché par le roi de Syrie. Et le roi de Syrie est venu entourer la ville de Dothan, où était le prophète. Le matin, en se levant, le prophète et son serviteur voient la ville assiégée. Et le serviteur panique. Qu'est-ce qu'on va faire? Élisée demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et tout d'un coup, il voit sur les collines alentour les milliers d'anges qui sont venus du ciel pour les garder. Alors j'aimerais que parfois le Seigneur nous donne la grâce qu'il a donnée au serviteur d'Élisée et que nos yeux s'ouvrent. Ce matin, si le Seigneur ouvrait nos yeux comme il a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, qu'est-ce que nous verrions dans cette salle? Vous avez une idée? Sûrement quelque chose qui nous donnerait le sentiment de la présence permanente de Dieu. Dans ce sens-là, nous avons besoin de cultiver ce sentiment de la présence permanente de Dieu parce que si nous ne le faisons pas, nous perdons Jésus en même temps. Regardez dans le psaume 32 encore où nous étions il y a un instant, quelques versets plus tôt. Au verset 8, il est dit ceci. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Avez-vous le sentiment d'être sur le regard constant de Dieu? Non pas le regard d'un Dieu qui est en train de chercher à savoir quelle faute vous allez faire pour vous taper sur la tête, mais le regard d'un père qui est en train de surveiller ses enfants pour qu'il ne leur arrive aucun mal. Avez-vous le sentiment d'être sous le regard constant de Dieu? Dans le livre Éducation, à la page 261, Ellen White écrit ceci. Comme sauvegarde contre la tentation et comme inspiration à la pureté et à la vérité, aucune influence n'égale le sens de la présence de Dieu. Ça, c'est aussi un moyen que nous avons besoin de développer pour ne pas perdre Jésus en route. Le quatrième point de cette stratégie pour retrouver Jésus, c'est la prise de conscience de notre besoin constant de la puissance de Dieu. Nous savons que nous n'avons pas de force en nous-mêmes, alors nous serions tentés de dire à Dieu, « Seigneur, rends-nous forts, fais de nous des hommes forts et des femmes fortes. » En réalité, ce que nous devrions demander à Dieu, c'est de dire, « Seigneur, sois fort en nous. » Parce que sinon, vous comprenez, l'orgueil va récupérer cette force et nous faire croire que nous sommes forts vraiment alors que nous ne le sommes pas. L'apôtre Paul avait conscience de cela. Et il l'a écrit, regardez ce texte avec moi dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er. Et au verset 29, il est écrit ceci. L'apôtre Paul ici parle d'arriver à la perfection chrétienne, devenir des hommes parfaits en Christ. C'est de cela dont il parle dans les versets qui précèdent. Et il dit au verset 29, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul a conscience que c'est la force de Dieu qui doit agir en lui. Ce n'est pas lui qui peut être fort pour y arriver tout seul. Et là encore, nous faisons avec la puissance de Dieu ce que nous faisons avec sa grâce à bien des égards. C'est-à-dire que nous allons chercher la puissance de Dieu quand nous pensons en avoir besoin. C'est-à-dire quand nous n'y arrivons pas tout seul. Alors on va chercher un coup de main de la part de Dieu pour y arriver. Est-ce que ça ne résonne pas à vos oreilles comme du salut par les œuvres, ça ? Je vais me débrouiller tout seul, et quand je n'y arrive plus, au secours, Seigneur ! Alors que, en réalité, nous avons besoin de lui, de sa puissance, à chaque instant. C'est vrai, nous avons la force de faire quelque chose. Il y a des choses que nous pouvons faire, et que nous sommes fiers d'accomplir. Mais quand il est question d'arriver, comme l'apôtre Paul le dit, un caractère chrétien parfait, quelle force pensez-vous que nous avons pour arriver à ça? Nous avons donc besoin de cette puissance de Dieu d'une façon constante en nous. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, quelques pages avant, le rappelle aussi. Lisez ce texte avec moi, voulez-vous, dans Éphésiens chapitre 3, au verset 14, il est écrit ceci. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Être puissamment fortifié par son esprit, c'est là le secret de cette vie chrétienne qui ne perd jamais Jésus. Savoir que nous avons besoin de sa puissance, non pas quand nous n'y arrivons plus, mais en permanence. Et cette puissance nous a été promise, c'est l'action du Saint-Esprit. Elle nous a été promise par Jésus, et Jésus n'a pas voulu que ses disciples restent seuls sans cette présence et cette puissance de Dieu en eux, pour eux, avec eux. Est-ce que vous avez perdu Jésus ? Est-ce que vous l'avez laissé en chemin quelque part ? Et depuis quand savez-vous que vous l'avez perdu? Est-ce que vous savez depuis quand il n'est plus avec vous? Combien de difficultés, combien de peines, combien de misères nous aurions pu nous épargner si nous n'avions pas perdu Jésus en chemin quelque part, le long de notre vie chrétienne? Combien de temps va-t-il falloir pour le retrouver? Peut-être nous l'avons perdu rapidement, pour les raisons que nous avons mentionnées tout à l'heure. Mais combien de temps va-t-il falloir pour le retrouver? 3 jours? 3 mois? 3 ans? Le Seigneur nous propose de le chercher ardemment. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure en introduction, dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 15, au verset 12, il est question de cette réforme qui s'est déployée dans le peuple d'Israël au temps du roi Asa. Et il est dit au verset 12, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Est-ce que nous sommes capables de prendre cet engagement-là pour être sûrs de ne jamais le perdre en chemin, quoi qu'il arrive, qui que nous soyons? Si vous avez perdu Jésus, retournez à Jérusalem. Retournez là où vous savez qu'il était avec vous la dernière fois que vous étiez avec lui. Et puis, sentez, ressentez ce besoin de sa grâce permanente, de sa présence constante, de sa puissance à chaque instant. David, dans le livre des psaumes, dans le psaume 16, exprime « Quel est mon désir pour moi aujourd'hui et le vôtre aussi ?» Il dit dans le psaume 16 au verset 8 « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Amen.